We do biz.
We do biz.
Devenons business.
Bonjour et bienvenue sur We Do Biz, la radio des TPE PME. Et pour cette deuxième émission de rentrée que nous avons abordée en pleine forme, beau et bronzé, sauf ceux qui sont partis en Normandie et en Bretagne, qui sont deux régions néanmoins que nous adorons, nous recevons aujourd'hui Monsieur Pelouzet, qui est le directeur des achats de la SNCF.
Bonjour.
Bonjour Monsieur Pelouzet, merci de nous recevoir dans ce bureau qui est heureusement aujourd'hui gorgé de soleil.
Absolument.
Nous allons
laisse un petit goût de vacances.
Exactement, un arrière petit goût qui est toujours bien agréable à conserver, surtout quelques nombreux jours après la rentrée. Alors, on va parler aujourd'hui de plein de choses avec vous, parce que finalement, vous cumulez un certain nombre de casquettes, mais autour du même terme. Donc, du coup, on n'est pas perdu, on est bien centré sur les achats, et ça va beaucoup nous intéresser. Bien évidemment, on démarre cette émission. Dans le cadre d'un partenariat aussi qu'on a monté avec PAC PME, dans lequel vous intervenez plus que largement, puisque vous en êtes aujourd'hui le vice-président. Donc on va revenir sur PAC PME tout à l'heure. Mais première question, on préparait l'émission ensemble, je vois que vous vous intéressez beaucoup à ce thème. Est-ce que vous avez, je sais pas, dans votre famille, dans votre pédigré, un parcours d'entrepreneur pour aimer autant ce thème des achats et des PME en France ?
Alors effectivement, j'ai beaucoup d'entrepreneurs autour de moi. Dans ma famille, effectivement, mon père était entrepreneur.
Oui.
Donc j'ai grandi dans le monde de la PME, ou entouré de gens qui s'intéressaient à la PME et à ses difficultés.
Oui.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la position que j'occupe, ce thème-là, évidemment, me revient et me tient à cœur. Et c'est pas complètement anodin que je participe à toutes ces actions ou que j'essaye de promouvoir un certain nombre d'actions pour rapprocher le monde des grands groupes, des grandes entreprises, des grandes administrations et le monde des PME.
Oui. Alors, sujet éternel, on allait dire, des rapports d'équilibre entre ces grands comptes qu'on a su générer, dont on oublie souvent de rappeler qu'ils sont quand même le moteur de notre économie, d'un point de vue notamment international, puisqu'en termes de dynamique et de création d'emplois, c'est plutôt les PME effectivement qui portent le sujet, mais néanmoins, ces deux mondes qu'on a tendance à opposer sont plutôt au contraire très complémentaires, ont besoin l'un de l'autre pour vivre. Alors, est-ce que votre credo aujourd'hui, effectivement, c'est de façon générale et philosophiquement, non pas l'équilibre, mais un bon travailler ensemble, c'est ça le credo principalement qui vous anime aujourd'hui ?
C'est complètement ça. Je crois qu'on est vraiment sur le comportemental.
Oui.
Derrière l'économique, il y a des comportements, il y a des gens. Et c'est sur ces gens qu'on a envie de travailler, rapprocher ces gens, qui puissent se parler, se mettre autour d'une table, comprendre qu'il y a des enjeux différents quand on est une PME de quand on est une grande entreprise, mais qu'au bout du compte, on gagne ensemble ou on perd ensemble.
Oui.
C'est une leçon qu'on tire quand on regarde certaines économies comme l'économie allemande. Hein, vous connaissez un petit peu cette économie, où on voit qu'il y a moins de grands groupes, mais beaucoup plus d'entreprises de taille intermédiaire.
Oui.
Et que l'ensemble de ces entreprises de taille intermédiaire, finalement, exportent plus que l'ensemble de l'économie française. Donc, on se dit qu'il y a quelque chose à tirer de ces leçons-là. On n'est pas l'Allemagne, on est différent, on a une structure différente. Néanmoins, la leçon qu'on en tire, c'est que quand les gens se parlent mieux, travaillent mieux, avancent mieux, on est beaucoup plus performant.
Alors, la SNCF, pour commencer par la SNCF, déjà, vous occupez cette position depuis combien de temps ?
Depuis 4 ans.
Depuis 4 ans.
Tout à fait.
Et avant ?
Avant, j'étais chez Cegelec, j'étais directeur d'achat de Cegelec, et avant ça, j'étais dans le pétrole pendant une quinzaine d'années chez une entreprise qui s'appelle ExxonMobil, qui est la numéro 1 mondiale, qui est la fusion de Mobil et de Exxon, ESSO en France, où j'ai occupé pas mal de positions dans le marketing et puis dans les achats un peu partout dans le monde,
d'accord.
J'étais aux États-Unis, en Afrique, Angleterre, etc.
Donc, longue expérience des achats. Est-ce que aujourd'hui, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous y voyez une énorme différence de pratique entre un ExxonMobil international et un SNCF français ?
De différences de pratique, forcément, puisqu'on passe d'un monde extrêmement privé, ExxonMobil, première entreprise privée du monde, à un monde public, SNCF, que tout le monde connaît. J'ai pas besoin d'expliquer ce qu'on fait, c'est l'avantage de cette maison.
Des bus, hein,
Des bus, oui, tout à fait. Ça nous arrive aussi, ceci étant, mais bon, quand il n'y a pas de train.
Exactement.
Mais donc, SNCF, entreprise publique, en plein mouvement, en vraie évolution, j'espère que ça se ressent de l'extérieur, mais cette évolution passe aussi par les achats, par arriver à acheter différemment, à sortir un petit peu du carcan de l'achat public pour faire un certain nombre de choses, dont s'orienter vers des PME et dont faire progresser le tissu économique industriel qui nous entoure. On a aussi, en étant SNCF, un certain devoir d'aménagement du territoire qu'on n'oublie pas, qui est un peu génétique chez nous.
C'est clair. Alors, avec 700 personnes autour de vous, vous avez une vraie grosse PME à vous tout seul, presque une ETI.
Absolument, je suis presque une ETI. Si on regarde le chiffre d'affaires, je suis une grosse ETI.
C'est clair, c'est clair. Donc aujourd'hui, 700 personnes réparties sur toute la France, donc avec quoi, des délégations régionales ?
Tout à fait, c'était une volonté de maintenir un tissu local important. Donc on a 7 centrales d'achat en région qui couvre donc plusieurs régions chacune, mais on n'a pas voulu centraliser plus, notamment pour pouvoir garder ce contact avec le tissu régional. On sait que beaucoup de fournisseurs, on les trouve autour de nous en région et non pas centralement. Et si on perdait ça, on perdrait une force économique et on perdrait ce lien. Donc on a voulu le maintenir en maintenant ces délégations régionales.
Alors, je suis entrepreneur, j'ai une prestation que j'estime magnifique et je veux absolument travailler avec la SNCF et je me dis, mais où est l'acheteur? Où est effectivement, en tout cas, la structure bénéficiaire de mes services? Et finalement, ben, on est perdu parce que c'est très grand.
Oui.
Donc, comment est-ce qu'on peut trouver un canal central en dehors des appels d'offres, mais au moins pour se faire connaître? Et ensuite, comment on passe le process des appels d'offres?
Alors, effectivement, le moyen le plus traditionnel, c'est de suivre les appels d'offres qui apparaissent au journal officiel.
Oui.
Alors, c'est le plus traditionnel, mais c'est pas le plus simple.
C'est sûr.
Pour une PME, suivre le journal officiel au quotidien, c'est un casse-tête absolument impossible. À partir de là, on essaie de faire un certain nombre d'actions, notamment avec Pacte PME. On fait des rencontres fournisseurs assez régulières, de manière à ce que les PME intéressées sur certaines thématiques puissent nous rencontrer. On a ouvert aussi une boîte sur Internet, sur notre site, qui permet aux PME de se faire connaître. Et puis, évidemment, ensuite, il y a tout le contact avec les acheteurs. Comme je le disais, les acheteurs sont en région, de manière à pouvoir rencontrer les entreprises qui sont aussi en région.
Alors, le reproche qu'on fait souvent aux acheteurs, et ça va nous amener à votre casquette de président d'association, c'est souvent d'acheter moins cher, mais pas d'acheter mieux. Est-ce que c'est justement quelque chose que vous essayez de combattre?
Ah, c'est un vieux combat, mais je pense que les acheteurs ont beaucoup plus évolué qu'on ne le croit.
Ouais.
Et d'ailleurs, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que une part de la problématique provient des non-acheteurs, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas des professionnels des achats, qui vont se concentrer sur ce prix, alors que l'acheteur aujourd'hui est maintenant formé avec toutes les formations qu'il y a à ce qu'on appelle notamment le coût complet, c'est-à-dire vraiment réfléchir à l'ensemble des coûts et non pas uniquement au prix. Et on sait qu'il y a beaucoup d'autres choses qu'un prix dans la valeur ajoutée que peut amener une PME ou une autre entreprise à un grand groupe. Et c'est là-dessus qu'on pousse et qu'on essaye de pousser les choses. C'est vrai en France, c'est vrai à l'international. On le sait, il y a de grands mouvements vers les LCC, comme on appelle, la Chine, etc., etc. Mais quand on a un vrai raisonnement en coût total, qu'on additionne les coûts de traduction, les coûts de suivi de qualité, l'empreinte écologique qu'on peut avoir, etc., le choix de l'externalisation en pays LCC n'est pas forcément le très bon choix. En tout cas, pas à tous les coûts.
Tout à fait. Donc, vous disiez que finalement, sur la SNCF, comme chez vos adhérents, sur le CEDAF, dont on parlera dans quelques minutes, l'idée, c'est aussi d'aider toutes ces PME à grossir, à s'étoffer, à se structurer pour monter en gamme, monter en taille. Et ça, c'est une vraie volonté à la SNCF.
Alors,
de les pousser ainsi.
C'est une vraie volonté à la SNCF, c'est une vraie volonté de l'association. Il y a deux axes, en fait, dans l'approche PME que la CEDAF promeut. Le premier, c'est mieux travailler ensemble. C'est la charte de bonne pratique qu'on a écrite avec la médiation du crédit et la médiation interindustrielle. C'est mieux travailler ensemble, c'est ce qu'on disait, c'est ce côté humain, mieux se connaître, mieux travailler ensemble, comprendre les problématiques réciproques des deux côtés. Le deuxième axe, c'est identifier et faire grandir les PME innovantes, les ETI innovantes de demain.
Oui.
Ça, c'est ce qu'on développe avec Pacte PME.
Oui.
Il y a un gros travail, vous savez qu'il y a 37 grands groupes qui sont aujourd'hui dans Pacte PME, on espère qu'il y en aura d'autres qui vont nous rejoindre, mais qui travaillent là-dessus. Quelles sont les bonnes pratiques que je peux mettre en œuvre pour identifier, c'est pas facile, et faire grossir, faire grandir dans de bonnes conditions les ETI innovantes de demain. La SNCF, évidemment, adhère et suit complètement ce processus.
Oui, parce que ce qui est important pour ces PME, finalement, c'est de se dire, je peux accéder à ce marché, ce marché me permet d'accéder à une taille supplémentaire. Il ne faut pas que je devienne dépendant, je crois que c'est un combat important, mais en même temps, cette première marge de dépendance, si elle est suivie par un effort de la PME pour aller chercher d'autres marchés, profiter de cette référence pour en trouver d'autres, est un moyen effectivement de les faire monter en gamme.
Absolument. La dépendance ponctuelle, maîtrisée et suivie est bonne.
Oui.
C'est-à-dire, comme vous venez de le décrire, si je suis dépendant pendant 6 mois, un an et demi, parce que ça me permet de grossir et d'aller chercher de nouveaux marchés, mais que c'est maîtrisé en accord avec mon donneur d'ordre et que c'est comme ça qu'on va évoluer dans les années qui suivent parce qu'il y aura d'autres entreprises qui vont venir, que mon donneur d'ordre va essayer de les amener et de les aider à venir travailler avec moi, c'est une bonne chose.
Oui.
La mauvaise chose, c'est la dépendance non maîtrisée où effectivement on prend un marché qui est trop gros par rapport à sa taille et le jour où on perd ce marché ou une part de ce marché, parce que malheureusement on peut pas toujours prédire l'avenir, on voit les phénomènes de crise qu'on traverse depuis quelques années, eh ben ce jour-là on perd tout et l'entreprise part avec.
Ouais. Est-ce que sans trahir de secret aujourd'hui, il y a des pressions amicales de l'État pour dire attention, c'est un bon moment pour soutenir les PME ou ils n'ont pas besoin de ça?
L'État soutient ces mouvements. Mmh. Je le disais, la charte de bonne pratique a été écrite avec les gens de Bercy, donc et ils nous soutiennent. Et grâce à eux, on a pu faire adhérer 150 entreprises à cette charte, ce qui est pas négligeable hein, quand vous voyez des Stéphane Richard, des grands patrons qui sont venus, Monsieur Bailly, Monsieur Gallois, etc., signer cette charte. On se dit que c'est un mouvement qui est quand même fort. Ils soutiennent aussi Pacte PME, même si c'est une association qui est principalement soutenue par les grands groupes hein, financièrement, mais le soutien de l'État est là. Donc je pense qu'il y a, une vraie compréhension, un vrai soutien de l'État sur ces sujets-là, qui n'est pas nouveau, hein, je pense que ça s'inscrit dans le temps.
Alors, on peut dire, sans mauvais jeu de mots, que M. Pelouzet, du coup, est la locomotive des achats en France.
Allez,
c'est beau, hein.
Il fallait le faire.
Oui, il fallait raccrocher les wagons. Et donc,
nous sommes en bonne voie.
Nous sommes en bonne voie, exactement, nous sommes sur les bonnes rails. Alors, l'idée, c'est que vous êtes président donc la CEDAF, qui est donc cette association des acheteurs français, qui vous disiez 2000 adhérents.
2000 adhérents aujourd'hui, sur toute la France, des adhérents grands groupes, des adhérents de plus petits groupes, des adhérents du public, du privé, donc un spectre assez large d'adhérents dans cette association.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, en tant que PME, on peut tout à fait devenir adhérent de
complètement,
la CEDAF. D'accord.
Complètement, on a un certain nombre de patrons de PME, puisque souvent dans les PME, ce sont les patrons qui font les achats, qui adhèrent à la CEDAF, ça leur permet de venir à nos réunions, de venir aux discussions et de mieux comprendre ce métier des achats qui continue à se professionnaliser année après année.
Alors, deux petites questions, pas provocatrices, mais juste pour annoncer un débat, de temps en temps, il faut donner des aspérités, mais... Est-ce que vous seriez, vous, effectivement, du coup, favorable au fait de réserver une partie des appels d'offres des grands groupes aux PME ?
Complètement. C'est évidemment ce qui se fait dans certains pays, les États-Unis, pour ne pas les nommer, et qu'on n'a pas réussi à obtenir en Europe.
Ouais.
Alors, pour des raisons OMC, enfin, il y a tout un tas de très, très bonnes raisons. Ceci étant, dans le cadre de Pacte PME, on s'est battu pour ça, pour que les entreprises publiques puissent réserver une part de leur marché aux PME. On a obtenu un tout petit aménagement de la loi qui est tellement petit et tellement compliqué qu'il est quasiment inapplicable, mais néanmoins qui est une première ouverture permettant de se dire qu'on peut différencier un petit peu les PME et arriver à leur confier des marchés. On espère continuer à faire avancer ce sujet pour que cette avancée aille plus loin et nous permette vraiment de réserver certains marchés à ces PME innovantes en France qui constituent la fierté de notre tissu national.
Alors, deuxième question qui peut être plus irritante éventuellement, mais comme c'est la rentrée, on est en pleine forme, on est prêt à aborder tous les sujets. Est-ce que vous avez le sentiment que partage un certain nombre de boîtes de PME, mais ça peut être aussi un espèce de fantasme collectif, c'est la grande distribution qui a les acheteurs les plus durs ?
C'est ce que les gens pensent.
Ouais.
Je suis pas persuadé qu'on puisse généraliser à ce point-là. Je pense que dans toute typologie d'entreprise, il y a des typologies de personnes différentes.
Ouais.
Il y a des gens qui ont plus ou moins conscience de l'impact qu'ils ont sur leur environnement économique. Et donc, dire c'est la grande distribution qui sont les méchants ou c'est l'automobile qui sont les méchants, etc., c'est un peu caricatural.
Ouais.
Je pense qu'il faut aller plus loin et regarder au niveau de chaque grande entreprise, de ce que dit la direction, ce que dit la direction des achats et comment tout ça est traduit par l'acheteur et comment on peut aider chaque acheteur à mieux comprendre sa responsabilité, quel que soit le domaine dans lequel il opère.
Alors, au titre de la CEDAF, est-ce que ça veut dire que ça fait partie du travail que vous faites ? C'est-à-dire, un, la formation des acheteurs, parce qu'elle est forcément clé sur leur capacité à comprendre, à comprendre au-delà de leur rôle quotidien, le rôle un peu plus macroéconomique que quelque part ils ont, parce que tous associés, ça finit par faire des impacts monumentaux. Et deuxièmement, du coup, d'avoir une conformité entre la formation et ce discours associatif et les discours stratégiques que leur tiennent, bien évidemment, en temps de crise, leur direction.
Alors, nous ne faisons plus de formation. Nous avions une filiale, le nom reste toujours CEDAF Formation, mais qui n'est plus lié à la CEDAF. Parce qu'on s'est dit qu'une association qui gère des écoles, c'est pas la meilleure manière, d'une part. Et d'autre part, on veut justement pouvoir porter ce message à l'ensemble des écoles achats et non pas au travers d'une seule. Et donc, même si on n'est plus actif dans la formation, on devient influent dans ces formations. Et notamment, aujourd'hui, on est en train de labelliser un certain nombre de formations sur le suivi, la portée et l'application de la charte. Et donc, on a un certain nombre de formations qui sont venues prendre ce label et pouvoir diffuser la connaissance autour des pratiques de la charte de bonne pratique partout auprès de leurs étudiants. Et c'est ce qu'on veut faire, arriver à ce que nos messages passent au travers de l'ensemble des formations. Il y a très, très bonnes formations achats en France.
Oui.
Il faut qu'elles intègrent cette dimension-là aussi.
C'est clair. Alors, une initiative que je trouve particulièrement intéressante, que vous citiez tout à l'heure quand nous préparions l'émission, c'est cette notion de médiateur. Nommer un médiateur qui évite effectivement d'aller au clash avec un tribunal et une paire de clients ou dire finalement, je veux pas perdre ce client et je dis rien et finalement, la situation n'évolue plus. Donc, cette médiation, c'est quelque chose qui commence à bien marcher, que vous avez vu.
Ça commence à bien marcher. En œuvre. Absolument. Ouais. Alors, il y a le médiateur que j'appelle externe, le médiateur inter-entreprise, mais on s'est dit en écrivant la charte qu'on n'ait peut-être pas forcément besoin de quelqu'un d'externe pour résoudre des problèmes entre une entreprise et son client ou une entreprise et son fournisseur et que toutes les entreprises signataires de la charte, donc les 150 entreprises, allaient nommer en leur sein un médiateur interne, indépendant de la ligne opérationnelle. Il ne faut pas qu'il soit impliqué dans le sujet, parce que sinon, ça ne veut plus rien dire. Oui. Je prends l'exemple de la SNCF, c'est le secrétaire général de l'entreprise, donc il n'est pas un opérationnel, qui tient lieu de médiateur, et donc qui peut être saisi par mail, simplement. On va sur le site SNCF, dans la rubrique fournisseur, on trouve l'adresse mail du médiateur, on lui envoie un petit dossier pour lui expliquer qu'on a quand même fait les 2-3 démarches préliminaires, qu'on a quand même parlé aux acheteurs, qu'on a quand même essayé de parler aux opérationnels, mais qu'on a peu eu de réponse, et donc on saisit le médiateur, qui va essayer de concilier les points de vue, et on a un taux de succès quand même assez bon côté SNCF, et permettre que les PME soient entendues. Parfois, c'est simplement une question de taille, c'est simplement une petite, entre guillemets, facture de 50 000 euros qui est restée sous le coude, mais elle est petite pour l'acheteur, elle est énorme pour la PME.
Ouais. D'autant que souvent, ça concerne plus directement le service des achats, mais plutôt la compta.
Souvent, c'est soit la compta, soit l'opérationnel qui a oublié de mettre le bon à payer, le tampon qui va bien, parce qu'il manquait une virgule, une bricole dans le service qui lui a été rendu, mais qui, encore une fois, n'a pas conscience de l'impact de la somme qui lui paraît petite en regard de tout ce qu'il fait, mais qui est énorme pour l'entreprise qui fournit le service ou le bien.
Alors, certains ont plaidé récemment pour une sanction vraiment appliquée du non-respect des délais de paiement, mais qui ne soit pas réclamée par la PME, pour pas qu'elle soit justement ensuite blacklistée en quelque sorte, mais par quelque chose d'extérieur qui effectivement punirait en quelque sorte et mettrait au coin la grande entreprise avec l'obligation de payer cette pénalité. Est-ce que vous êtes favorable à ce genre de système coercitif?
J'ai toujours du mal avec les systèmes coercitifs qu'on essaie de mettre en place pour une bonne raison, c'est que aussitôt qu'on l'a mis en place, on trouve un moyen de le contourner. Il y a un exemple très simple sur les délais de paiement. Il suffit que je mette mon centre de paiement à l'étranger pour ne plus être soumis à la LME. Donc, je facture à partir de la Hollande, de la Belgique ou de ce que je veux. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je reviens au comportement. C'est un peu un leitmotiv dans ce que je dis ce matin. Mais si les comportements ne changent pas, c'est-à-dire si les gens ne comprennent pas que payer en retard un fournisseur, c'est le mettre en danger, et le mettre en danger, c'est potentiellement perdre son fournisseur et perdre autour des clients, on n'aura pas compris ce qu'on doit faire aujourd'hui. Et donc, un moyen coercitif ou une loi de plus ne changera rien à ce qu'on essaye de mettre en place.
Alors là, du coup, vous engagez un beau combat parce que vous êtes à la fois sur la SNCF, à la fois sur la CEDA, vous êtes vice-président du pacte PME qui est notre partenaire et qui effectivement organise toutes ces rencontres et ces zones de dialogue entre les PME et les grands groupes. Alors, quelles sont les grandes échéances de cette année pour vous? Est-ce qu'il y a des grands projets que vous voulez mettre en œuvre et qui vont passer par l'une de ces structures?
On est plus en élargissement, consolidation. On a lancé beaucoup de choses l'année dernière. La charte dont je vous parlais, c'était l'année dernière. Le lancement de l'association Pacte PME, c'était l'année dernière. D'autres associations, pas à pas, pour le handicap et l'insertion aussi, ont été lancées l'année dernière. Cette année, on va essayer vraiment de consolider, d'élargir, c'est-à-dire encore plus de signatures, encore plus d'adhérents, encore plus de compréhension, encore plus d'initiatives au travers de Pacte PME qu'on pourra mettre en avant.
Écoutez, on sera ravis de les relayer en tout cas sur WeDoBiz.
Et nous vous en remercions.
Voilà, et d'inciter nos entreprises à se rapprocher de toutes ces structures. Bien évidemment, nous mettrons à disposition les différents liens et sites sur le site de façon à ce que les personnes puissent se rapprocher, puis adhérer, pourquoi pas, à la CEDAF.
Vous êtes le bienvenu.
Une bonne idée. Donc, merci Monsieur Pellouzet. Merci de votre temps.
Merci à vous.
À bientôt.
Bonne journée.
Et moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission de Passerelle PME, qui arrivera très vite sur vos antennes. Bonne journée à vous, à bientôt.